Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, nous allons mener l'enquête pour répondre à la question qui donne son titre à cette émission : qui a composé l'Adagio d'Albinoni ? Ce morceau est l'un des plus célèbres de la musique classique, mais son histoire est aussi mystérieuse que cette pièce pour orgue et cordes est connue. Elle est connue car on l'entend dans des œuvres très diverses, dans Le procès d'Orson Welles en 1962, dans Rollerball, un film de science-fiction qui invente un sport ultra-violent, dans le film de guerre Gallipoli, dans des comédies françaises et plus récemment dans le drame Manchester by the Sea. Cet adagio d'Albinoni est utilisé pour signifier la tristesse ou la mélancolie, et c'est même le morceau que choisit Jean-Claude Duss dans Les Bronzés quand il est désespéré.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors, j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider.
Comment ça ?
J'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'avalais deux tubes de laxatif, et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
Ça fait râler, hein.
Puis depuis, je m'en suis jamais vraiment remis tout à fait, quoi. Surtout du point de vue digestif, c'est plus comme avant.
Au-delà du cinéma, l'Adagio d'Albinoni a été repris également par de nombreux musiciens. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même eu une version rap dans le précédent épisode de ce podcast. Chez les chanteurs, Tino Rossi, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu ou encore Lara Fabian ont mis des paroles sur ce morceau. Dans un genre différent, il a aussi été repris par les Doors. Après la mort de leur chanteur Jim Morrison, ils ont mis en musique des poèmes qu'il avait enregistrés. Voilà A Feast of Friends.
Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must know.
Mais justement, cet adagio d'Albinoni a été tellement entendu qu'il est devenu un cliché. Comme le dit le critique cinéma du journal The Guardian à propos de Manchester by the Sea, l'adagio d'Albinoni a été utilisé partout. Ici, c'est une référence culturelle éculée qui parasite une séquence centrale. Même chose pour celui du New Yorker. Un morceau qui a été si utilisé est totalement asséché. Est-ce qu'on ne devrait pas l'interdire ? Avec tout ça, on oublie presque de se demander d'où vient ce morceau. Pouvez-vous citer une autre pièce de ce compositeur baroque vénitien Tommaso Albinoni ? Moi, aucune avant de commencer à travailler sur cet épisode. Si jamais la curiosité vous pousse à aller découvrir ses œuvres parce que vous aimez particulièrement cet adagio, vous risquez d'être déçu, ça ne ressemble pas du tout à la célébrissime pièce. Bref, il y a anguille sous roche. Pour donner une première réponse à la question de l'introduction, ce n'est pas Albinoni qui a composé l'adagio d'Albinoni. Je vais vous dévoiler la vérité derrière cette fake news musicale, une histoire qui va nous emmener en Italie et dans les ruines de Dresde en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, séparons ces termes si souvent associés qu'on les prendrait presque pour un seul mot, l'adagio d'Albinoni, et définissons ce qu'est un adagio.
Thank you.
Celui-ci est très récent, il est signé Daft Punk Adagio for Tron sur la bande originale de Tron Legacy en 2010. Les noms des morceaux classiques désignent souvent leur forme ou une de leurs caractéristiques. Ici, Adagio, c'est de l'italien qui signifie « à l'aise ». C'est une indication de tempo, c'est-à-dire de la vitesse du morceau. On doit être à l'aise quand on le joue, c'est donc une pièce lente qui fait souvent partie d'une sonate ou d'une symphonie. Celui d'Albinoni n'est pas le seul à être utilisé dans de nombreux films et séries quand l'atmosphère est triste. Il y a aussi celui de Samuel Barber, un compositeur américain dont c'est l'œuvre la plus connue. Il l'a écrite en 1936. Cet adagio pour cordes est parfois qualifié de morceau le plus triste du monde. On l'entend entre autres dans 300 de Zack Snyder, dans Elephant Man, dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et dans une scène particulièrement marquante de Platoon en 1986, film sur la guerre du Vietnam. Mais il est aussi devenu un des morceaux quasi officiels du deuil. Il a été joué lors de plusieurs cérémonies d'obsèques de personnalités, notamment aux États-Unis, et lors de cérémonies d'hommage aux victimes du terrorisme à travers le monde. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos compositeurs vénitiens. Tommaso Albinoni est un musicien qui a vécu de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XVIIIe, pendant la période baroque. Et il faut dire que si l'on retient un nom de cette époque à Venise, c'est plutôt celui de Vivaldi, le compositeur des Quatre Saisons, qui a vécu à la même période. Albinoni, c'est un compositeur important de la musique savante, mais pas un compositeur de premier plan. On connaît assez peu sa vie, il venait d'une famille riche et disait lui-même pratiquer la musique en dilettante. Fait notable, il est toujours resté indépendant alors que pour beaucoup d'artistes, il était indispensable d'avoir un protecteur ou un mécène. Albinoni était très connu en Italie pendant sa vie, notamment pour ses opéras. Il en a composé environ 80, mais impossible de les entendre aujourd'hui, on va y revenir. Parmi ses fans, pas moins que Jean-Sébastien Bach, qui a été actif environ à la même période, la première moitié du XVIIIe siècle. Bach a utilisé plusieurs mélodies d'Albinoni pour construire ses propres morceaux. Si les opéras ont pour la plupart disparu, on peut écouter en revanche certains des concertos d'Albinoni. En voici un par exemple pour hautbois. Ce que je viens de vous faire écouter, c'est le véritable adagio d'Albinoni. C'est-à-dire que c'est la deuxième partie, la partie lente, de son concerto pour hautbois en ré mineur numéro 2. Ça n'a rien à voir avec le morceau dont je vous parle depuis le début de cette émission et dont je vais maintenant vous raconter l'histoire. Cette histoire commence à Dresde en 1945. Cette ville située à l'est de l'Allemagne est la cible d'un bombardement massif des Alliés. Elle est complètement détruite. Et la bibliothèque de cette ville culturelle n'est pas épargnée. Les ouvrages les plus précieux avaient été évacués, mais impossible de tout sortir. Parmi les trésors de l'institution, de nombreuses œuvres de Tommaso Albinoni qui n'ont pas été publiées et qui sont donc détruites. Ce qui explique pourquoi il ne reste aujourd'hui que son œuvre instrumentale et que ses œuvres vocales, ses opéras, ont presque tous disparu. Mais cette destruction... Un homme refuse d'y croire. Il a 35 ans, il est italien, il s'appelle Remo Giazzotto. Giazzotto est un musicologue spécialiste de plusieurs compositeurs de son pays, et notamment d'Albinoni. Il a écrit la biographie, il a rédigé le catalogue de ce compositeur qui, comme de nombreux musiciens de la période baroque, est à l'époque tombé dans l'oubli. Giazzotto se précipite dans les ruines de la bibliothèque de Dresde. Il fouille et, miracle, il trouve un petit bout de partition, quelques notes, pas plus, mais des notes écrites par Albinoni, que Giazzotto arrange à sa façon pour en faire une œuvre originale publiée en 1958 et qui en quelques années est devenue un tube. Ça, c'est pour l'histoire officielle. Premier niveau de l'embrouille, ce fameux adagio d'Albinoni est dès le départ attribué à son véritable auteur sur la partition. À aucun moment, Giazzotto ne cache que c'est lui qui a composé le morceau. Il s'est simplement appuyé sur une base d'Albinoni, c'est écrit. Mais deuxième niveau de l'embrouille, ces fameux fragments, ces quelques notes de la main d'Albinoni sur lesquelles Giazzotto se serait appuyé, personne ne les a jamais vus. Giazzotto n'a jamais publié sa découverte et aujourd'hui la plupart des musicologues s'accordent à dire qu'il a tout écrit lui-même. Il faut dire que pour les spécialistes, cet adagio ressemble plus à ce qu'un compositeur des années 50 imaginait être de la musique baroque plutôt qu'à de la musique baroque en tant que telle. C'est une composition qui est très influencée par le romantisme. Un peu comme en littérature, quand les poètes romantiques donnaient une vision fantasmée du Moyen-Âge. Depuis, la connaissance et l'interprétation de la période baroque ont beaucoup évolué. Enfin, je dis qu'il a tout composé lui-même, mais beaucoup de musiciens s'inspirent de leurs prédécesseurs. Je vous l'ai dit, Jean-Sébastien Bach a utilisé des mélodies d'Albinoni, et peut-être que Giazzotto est lui aussi allé piocher chez d'autres compositeurs. Il y a plusieurs ressemblances entre ce thème de l'adagio et un passage du premier mouvement du concerto pour cor numéro 4 de Mozart. Mais aussi avec ce concerto pour alto du compositeur de la période classique Karl Stamitz. Ou encore, ça continue avec ce court passage du troisième mouvement de la sonate pour piano numéro 31 de Beethoven, un mouvement baptisé Adagio ma non troppo, lent mais pas trop. Ou encore, et là c'est terminé, avec le thème du deuxième mouvement du trio pour piano numéro 33 de Louise Farinck, compositrice romantique, son nom, Adagio Sostenuto, lent et soutenu. Tous ces morceaux partent ensuite dans des directions très différentes, mais Giazzotto avait l'embarras du choix pour l'inspiration. Nous voilà avec deux questions. Déjà, pourquoi Remo Giazzotto a-t-il attribué ce morceau, même en partie, à Albinoni s'il a tout composé lui-même ? Il est très compliqué de répondre. Les détails de sa vie sont rares, il est mort en 1998 sans révéler la vérité. Les sources sont difficiles à trouver et la photo de lui qui circule sur Internet est en réalité celle du grand chef d'orchestre Herbert von Karajan. La théorie la plus probable est que ce chercheur voulait faire connaître ce compositeur qu'il appréciait beaucoup et dont il était le spécialiste. Devant l'échec de méthodes plus traditionnelles, il aurait décidé d'utiliser ce stratagème qui a fonctionné, car même si la grande majorité de ceux qui ont déjà entendu ce morceau se sont arrêtés là, certains passionnés de musique classique sont allés fouiller dans les autres œuvres d'Albinoni. La seconde question, c'est pourquoi est-ce que c'est devenu l'adagio d'Albinoni tout court ? le nom de Jazzotto étant effacé, oublié, alors que dès 1958 et la parution de la partition, il est clair que c'est lui qui l'a écrite. Déjà, c'est sans doute parce que ce nom est plus facile à retenir que le vrai nom de la pièce, Adagio en sol mineur sur deux extraits thématiques et une basse chiffrée de Tommaso Albinoni par Remo Jazzotto. C'est sans doute aussi une stratégie délibérée des maisons de disques qui entretiennent encore aujourd'hui le flou en créditant Jazzotto comme simple arrangeur parce qu'il est sûrement plus vendeur de mettre sur la couverture d'un CD un musicien baroque plutôt qu'un obscur musicologue italien. Après cette rocambolesque histoire, nous voilà aujourd'hui avec l'un des morceaux les plus populaires et les plus repris de la musique classique. Voici la version d'Yngwie Malmsteen, ce virtuose de la guitare électrique très influencé par le baroque dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode de Retour vers le classique sur le métal. L'Adagio d'Albinoni est sans doute la plus connue des contrefaçons musicales, mais ce n'est pas la seule. Si, comme moi, ces supercheries vous amusent, il y a des choses à découvrir, comme ce concerto pour violon Adélaïde de Wolfgang Amadeus Mozart, le soliste et l'un des plus grands violonistes du XXe siècle, Yehudi Menuhin. Pourrait y croire, un concerto oublié composé par Mozart quand il avait 10 ans, dédié à Adélaïde de France, quatrième fille de Louis XV. On pourrait y croire, mais c'est une contrefaçon signée du musicien français Marius Kazatsu, une contrefaçon composée dans les années 30 qui a beaucoup intrigué les musicologues, mais qui a suffisamment fait illusion pour entrer dans le catalogue officiel des œuvres de Mozart et qui a été enregistrée par l'un des plus grands musiciens de l'époque, avant que Marius Kazatsu ne reconnaisse la vérité. Et dans la famille Kazatsu, le frère de Marius, Henri Kazatsu, a lui signé entre autres des concertos pour alto de Handel ou de Carl-Philippe Emmanuel Bach, l'un des fils de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi ont-ils fait ça ? Pas pour une question d'argent, puisque les œuvres de ces musiciens, Handel, Mozart, sont depuis longtemps tombées dans le domaine public, plutôt par défi pour le plaisir de mystifier la critique. Voilà ce que disait le petit-fils d'Henri Kazatsu, le chef d'orchestre Jean-Claude Kazatsu. Il faut dire que la famille est une dynastie de musiciens. Voilà ce qu'il disait dans un livre d'entretien. Rappelons que l'époque s'amusait beaucoup à composer dans le goût et à la manière d'eux. Moins qu'une blague de potache, j'y vois l'élégance de musiciens de race. Je pense qu'il avait souhaité en fait se moquer d'une critique obtuse avec beaucoup de subtilité. Grand-père était un esprit malicieux. Jubilé d'être interprété par d'illustres instrumentistes, s'effacer derrière la qualité de son ouvrage, le sourire aux lèvres, en se privant du plaisir qui consistait à revendiquer la propriété du joli tour de force, une distinction de fin gourmet, n'est-ce pas ? On se quitte avec l'œuvre d'un autre grand faussaire de la musique classique, le violoniste Fritz Kreisler et son concerto pour violon attribué à Vivaldi. Pour résumer cet épisode, l'une des pièces les plus célèbres de la musique classique reprise par de nombreux musiciens et utilisée dans beaucoup de films et de séries est vraisemblablement un faux, composé par un admirateur et spécialiste. Ce faux adagio d'Albinoni rejoint la liste des pastiches musicaux, mais contrairement à d'autres disciplines artistiques comme la peinture, la contrefaçon est peu répandue dans la musique, notamment parce qu'il est difficile pour les artistes de s'enrichir avec des œuvres attribuées à des compositeurs tombés dans le domaine public, En revanche, pour les maisons de disques et les éditeurs de partitions, il est parfois rentable d'entretenir le flou auprès du grand public. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur l'article dédié à cet épisode les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité. Vous pouvez me contacter sur Twitter et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt.